1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, deuxième émission d'octobre, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Ça va?
Ben ouais, ça va. Et
bon,
toi?
Très bien, très bien. Je suis ravi, on retrouve Doane pour la deuxième semaine. Salut Doane.
Bonsoir à tous.
Ça va?
Ça va très très bien, merci.
Ouais, ok. Et ben voilà, c'est la deuxième émission, donc on part à nouveau à la découverte de Doane avec des questions un petit peu plus liées aux raisons pour lesquelles on l'invite ce soir. Entre autres, Ghislain, tu commences?
Allez, d'accord.
Allez, c'est parti.
Alors, Doane, quel a été ton premier combat?
Le premier combat, ça remonte à loin, ça remonte au PAX, en fait. Alors, en fait, ça ne s'appelait pas PAX à l'époque, ça s'appelait CUC. CUS, alors je ne sais plus dans quel ordre ça a été exactement.
Ouais. Il n'y a pas eu le Q aussi à un moment, les contrats d'union libre.
Ça se peut, voilà, ça se peut.
Je crois qu'ils l'ont vite changé en fait.
Oui. Oui. Ils auraient dû le garder. C'était, donc j'étais encore étudiant à Lyon et c'était à l'époque où justement on en discutait et il y a eu pas mal de discussions là-dessus avant d'aboutir au PAX.
Ouais. Voilà.
Mmh. Ouais. Et alors, c'était comment tu as participé à ce combat?
Oh non, très très modestement en fait. Hein. C'est en participant à des réunions avec donc des personnes qui venaient le présenter, échanger avec eux. Voilà, mais c'était vraiment à l'époque très 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 modeste.
Ouais. Et c'était dans quel cadre ces réunions, ces présentations?
Alors, il se trouve qu'à l'époque à Lyon, je crois que ça existe toujours, c'est l'association ARIS, hein, qui est une des plus vieilles, voire même la plus vieille association LGBT de Lyon. Mmh. Donc elle avait différentes composantes et une de ces composantes c'était les jeunes gays. Et donc moi à l'époque je faisais partie des jeunes gays. Et donc dans ce cadre-là en fait on participait aux réunions, discussions, débats sur cet aspect qui ouvrait des droits nouveaux aux personnes LGBT.
Donc ça veut dire qu'à l'époque déjà tu étais homosexuel, ouvertement, revendiqué, assumé,
oui, revendiqué, ouvertement, en allant à la radio comme ce soir, peut-être pas.
Ouais.
Je me rappelle très très bien en fait de la première fois où j'ai poussé la porte de cette association, ARIS. J'étais en sueur, j'ai dû faire trois ou quatre fois le tour, la rue avant de me décider à pousser la porte.
Ouais.
Et quand j'ai eu le courage de pousser la porte, j'ai rencontré quelqu'un d'absolument remarquable et formidable qui m'a accueilli vraiment de façon super. Il s'appelle toujours Julien et qui m'a parlé de cette association et aussi d'une autre association qui s'appelle Randoz Rhône-Alpes qui promeut la randonnée pédestre dans la région lyonnaise. Mmh. Voilà. Donc c'était vraiment une très très belle rencontre.
D'accord. Et du coup, de prendre cette décision que d'aller dans cette association, est-ce que c'est quelque chose qui t'a pris du temps? Parce que c'est une démarche déjà réfléchie. Ça veut dire qu'avant, j'imagine, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça forcément spontanément. Il y a une réflexion.
Il faut se remettre à la situation. Donc ça remonte maintenant à 25 ans. Mm-hmm. Ça vous donne une petite idée de mon âge. Et donc, à l'époque, donc on était en plein dans le sida, on était en plein dans le dénigrement des personnes homosexuelles.
Ouais.
Donc, on était dans ce contexte-là où l'homosexualité, ce n'était pas forcément quelque chose de très, très facile à... Donc, par exemple, la première gay pride qui s'est organisée à Lyon, Moi, je ne l'ai pas faite, j'étais sur le côté. Ouais. J'étais sur le côté parce que je n'ai pas osé défiler avec les autres camarades de l'association Randoz. Et voilà. Mais si vous voulez, en fait, c'était aussi pour rompre l'isolement parce que, bon, étudiant, voilà, homo, je me sentais seul. Mmh. Je ne voulais pas non plus fréquenter les pissotières et les lieux de drague de Jarlan, etc. Et donc, au final, j'ai plutôt préféré me sociabiliser autrement que par ces moyens classiques.
D'accord.
Et après ton cheminement de militant, comment ça s'est passé ?
Alors, il est tout simplement venu avec la randonnée pédestre. En fait, la randonnée pédestre, grâce à cette association Randoz Rhône-Alpes, en participant à cette association, en organisant des randonnées, donc je suis entré dans le circuit du militantisme. Alors, vous allez me dire, en quoi organiser une randonnée pédestre, c'est faire du militantisme ? Ben, moi, je l'assume totalement.
Mm-hmm. On ne va pas poser la question parce que nous, on est d'accord avec la réponse, mais c'est bien que tu en parles.
Non, parce que vous pourriez me dire, oui, ben voilà, il n'y a que le militantisme où on brandit des banderoles, on fait la guépraille. Il y a aussi une autre forme de militantisme où, encore une fois, ce fameux Julien qui m'a accueilli, c'est une forme de militantisme parce que lui, il a accueilli une personne qui était en demande de sociabilisation qui l'a très très bien accueilli. Et donc ça, c'est un acte militant de faire progresser justement, de faire progresser aussi le cheminement psychologique, intellectuel de cette personne, parce que finalement moi j'étais en demande de rencontrer quelqu'un qui puisse me dire bon ben voilà, le milieu homo c'était pas que les pissotières et les lieux de drague, c'était autre chose.
C'était une évidence pour toi que tu allais t'inscrire effectivement dans ce mouvement là parce que tu, effectivement, à un moment c'est un biais pour se sociabiliser, tu aurais pu continuer à faire de la rando sans forcément chercher à avoir une activité comme ça avec de plus en plus de visibilité, voire de revendications. C'est une décision qui t'est apparue nécessaire comme très 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 rapidement ou bien
Parce qu'en fait, avant de faire de la randonnée avec cette association, je faisais déjà de la randonnée avec des groupes d'amis où je n'ai pendant très longtemps jamais dit que j'étais homosexuel et jamais assumé mon homosexualité.
Ouais.
Et donc d'avoir une association sportive, donc de pleine nature, de convivialité, qui me permettait justement tout le monde savait que c'était fréquenté par des homos, donc on n'avait pas besoin de le dire. Et par ailleurs, il y avait parfois aussi beaucoup de blagues que savent faire les homosexuels sur eux-mêmes. Donc voilà, je ne ferai pas un dessin là-dessus. Et donc au final, on était vraiment, on s'assumait pleinement, voilà, on était totalement libre. Et c'est ça qui est vraiment très important, on était totalement libre dans un espace convivial, dans la nature, à faire une activité sportive. Et donc ça, c'était vraiment super, quoi.
Ok. Est-ce que du coup, tu as changé complètement de milieu, d'environnement amical, ou est-ce que ça t'a permis aussi pas forcément de renouer, mais d'être plus transparent avec l'entourage que tu avais précédemment ?
Ça m'a permis, de façon vraiment évidente, de mieux m'assumer homosexuel. C'est-à-dire que
ça t'a conduit à faire des coming out avec,
exactement. En particulier avec mes amis proches et mes parents. D'accord. Aussi. Donc encore une fois, c'est tout ce cheminement qui m'a permis justement d'être ce que je suis actuellement et d'assumer pleinement et de venir sur les ondes de votre radio, pouvoir prendre la parole avec mon prénom, mon identité, ce que je fais dans la vie, etc.
Et aujourd'hui, tu en es où de ce militantisme du quotidien ? Moi, j'appelle ça comme ça, tu vois, celui où justement il n'y a pas les pancartes et tout ça, mais de la vie quotidienne, tu en es où de tout ça ?
Alors, donc j'ai assumé quelques responsabilités dans une association qui s'appelle Chemin des Cimes, qui est une association multisport qui regroupe des gays, des lesbiennes et leurs sympathisants sur Montpellier et sa région. Et donc actuellement, je guide toujours des randonnées pédestres, voilà, donc, qui est une de mes passions, la nature, le sport, mais aussi rencontrer des gens, faire connaissance avec les gens, et évidemment aussi un petit peu les aider dans leur cheminement, tel que, comme on m'a aidé à une certaine période, voilà, j'essaie de renvoyer l'ascenseur. Et de plus en plus, en fait, je milite dans une autre association qui est l'association des parents et futurs parents gays lesbiens, qui est l'association qui fédère les homosexuels qui souhaitent avoir des enfants ou qui élèvent déjà des enfants.
Ok. Alors, tu y es arrivé comment ? Est-ce que c'était... toi, je ne sais pas, on l'a compris, hein, tu l'as évoqué à la fin de la dernière mission, tu es papa d'une petite fille, c'est ça ?
C'est ça.
Donc, le fait de militer à la PGL et d'avoir des responsabilités, est-ce que ça vient, d'un désir d'être père et du coup d'endosser aussi des responsabilités au sein de la PGL? Comment ça se passe pour toi?
Moi, c'est avant tout pour défendre les droits de ma fille.
Ouais.
Et très moderne, enfin, ouais, de toute façon très égocentrique, mes droits à moi aussi.
D'accord.
Voilà. Évidemment aussi les droits des autres personnes LGBT, ouais, qui sont parents, évidemment. Mais c'est cet aspect-là, c'est-à-dire faire progresser le droit français. Mais aussi, il faut bien voir les choses aussi, c'est voir aussi le regard de notre société sur nos familles. Donc, sur nos familles des personnes homosexuelles et sur ma propre famille à moi.
Voilà. Okay.
Donc, moi, je pars toujours sur le principe que pour obtenir quelque chose, il faut y aller, quoi. Il faut sortir les mains des poches, il faut mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir faire avancer les choses. Et on ne peut pas attendre que ça tombe comme ça des politiques ou d'autres personnes. Il faut y aller, quoi.
Et du coup, comment ça s'organise, ça, aujourd'hui, au sein de la PGL ?
Donc c'est une association qui est nationale, qui a à peu près 2000 adhérents sur toute la France. On a même des adhérents sur les DOM-TOM. Hein, donc, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, on a des adhérents. Et donc, c'est structuré sous forme d'antennes régionales. Chacune de ces antennes régionales a un responsable avec un bureau. Et votre serviteur, là, est un des responsables de l'antenne régionale Occitanie. Voilà.
Ok. Pareil, ça passe très vite, donc pause musicale et on reparle plus précisément de tes responsabilités au sein de la PGL après, si tu veux bien, Doane.
Avec grand plaisir. Hein.
Tout est blanc, tout givré, innocent, tout figé, c'est l'hiver, en été. Tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré, c'est l'hiver. La nuit blanche pourrait durer jusqu'à la fin de l'été, allongé sur le sable givré, sous les flocons de l'été. La nuit I'm not afraid to
SLP, la émission.
Bon, nous, on n'a pas du tout écouté la pause musicale. Pourtant, c'est une très belle chanson. Bah,
c'est, ouais, c'est Etienne Dao, c'est
voilà, c'est ça, c'est ça. Mais la discussion était tout aussi intéressante. Ouais.
En tout cas, moi, je tiens à féliciter Arnaud, notre technicien, qui aime le grand écart entre Etienne Dao et le jingle. C'était parfait.
C'était parfait, comme on aime ASLP. Oui, Doane, pendant la pause, on a continué à discuter avec toi. Du coup, comment on va? Quelle question tu vas poser pour essayer de faire entendre à nos auditeurs
Quelle question je vais poser pour reprendre le fil, c'est
ça? Ouais, par exemple, parce que ce qui s'échangeait hors micro, c'était passionnant aussi.
Ah, merde, ça veut dire qu'il faut qu'on recommence.
Oui,
on va reprendre ça. Sinon,
ouais, on va y revenir plus tard.
Alors dis-moi,
ouais.
Doane, quelle est la réforme qui tarde plus à venir?
Alors, il y en a plusieurs, mais si c'est celle qui est vraiment d'actualité actuellement, c'est évidemment l'ouverture de la PMA, procréation médicalement assistée, à toutes les femmes, donc aux femmes célibataires et aux femmes en couple. C'est en fait une réforme, une mesure qui existe dans différents pays européens, donc on pense à l'Espagne, on pense à la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, mais qui n'existe pas encore en France. Alors qu'il y a énormément de couples de femmes, voire même des femmes célibataires, qui se rendent à l'étranger pour pouvoir bénéficier de ces techniques de procréation médicalement assistée. Mmh. Donc en fait, on est dans une situation où des citoyennes vont à l'étranger bénéficier de ces techniques, reviennent en France, accoucher en France et bénéficient finalement de toute la protection due aux femmes enceintes. Mais plus que ça, en fait, ça crée en fait une rupture d'égalité entre toutes les femmes, donc les femmes hétérosexuelles et les femmes homosexuelles.
Alors, bien sûr, et puis une inégalité aussi au niveau des finances, parce qu'il faut quand même avoir les moyens de faire des voyages en Espagne ou en Belgique. Quand tu es frontalier, ça pose peut-être moins de problèmes, mais quelqu'un qui habite dans le centre de la France, s'il faut qu'il aille en Belgique, en Espagne régulièrement, parce qu'on n'y va pas qu'une seule fois.
C'est tout à fait vrai, parce qu'effectivement, les personnes qui. Les couples hétérosexuels qui bénéficient de cette technique peuvent poser des jours de congé pour bénéficier donc des traitements médicaux. Mmh. Alors que les couples de femmes, elles, il faut qu'elles posent des jours de congé, donc elles prennent sur leur propre congé.
Sur leurs vacances.
Sur leurs vacances, exactement, pour y aller. Et évidemment, il faut aussi qu'elles payent. Donc, par exemple, une clinique à Barcelone très très connue, c'est à peu près 1 500 €, en fait, l'acte. Voilà.
Un acte, sachant que ça ne réussit pas de la première fois.
Du premier
voilà,
coup.
Tout à fait. Voilà, donc ça a un coût, il faut le répéter, etc. Donc on sait par exemple que certains couples empruntent de l'argent pour pouvoir bénéficier de ces techniques.
Du coup, assez concrètement, à la PGL, quels moyens vous réussissez à mettre en œuvre pour qu'on puisse avancer sur les débats et qu'on accepte à ce nouveau droit?
Alors, nous, à la PGL, on n'a pas d'élus de la République, on n'a pas de députés ou de sénateurs parmi nos adhérents, etc. Enfin, je ne crois pas qu'on en ait, mais bon, peut-être qu'on en a, mais je ne sais pas, je ne suis pas au courant. En tout cas, nous, notre seul moyen, c'est ce qu'on appelle le lobbying. Alors, je reconnais totalement que voilà, les gens, quand ils entendent lobbying, lobby, ils lèvent les sourcils aux yeux, etc.
Ouais, parce qu'à SLP, on a fait des émissions là-dessus, mais on parlait du lobbying de multinationales, les méchants lobbying qui nous pourrit la vie, mais on est tout à fait ouvert au genre de lobbying que tu peux évoquer au travers de la PGL. Donc on t'écoute.
Voilà, donc un de nos moyens, c'est tout simplement de contacter les élus, à tous les niveaux, à tous les échelons d'ailleurs, aussi bien au niveau d'une ville qu'au niveau d'un département, puisque par exemple au niveau départemental, il y a des services sociaux qui s'occupent justement de ces questions-là, de l'adoption par exemple. Et aussi au niveau national, c'est évidemment les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Et donc, pour vous donner un exemple, en amont des élections présidentielles et législatives, on est allé rencontrer les différents candidats des partis. Mm-hmm. Donc, par exemple, la République, les Républicains, pardon, excusez-moi, la République En Marche.
Oui.
Donc c'était En Marche à l'époque, France Insoumise, on avait aussi rencontré l'EPS, les écologistes, donc Europe Écologie des Verts, et on leur avait présenté une liste de nos revendications, donc argumentées, et donc par exemple sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Et donc maintenant certains d'entre eux ont été élus, Ouais. Et donc, on va se faire un devoir, en fait, de prendre rendez-vous avec eux pour aller les rencontrer, pour leur rappeler, en fait, nos revendications, et en particulier en relation avec la commission juridique de notre association et la commission politique, pointer les différents articles de loi qu'il faudrait modifier pour pouvoir justement étendre cette procréation médicalement assistée à toutes les femmes.
Mmh. Ok. C'est presque... Ça se professionnalise vachement, tout ça, je trouve. Hein. C'est vraiment...
Exactement, cela. Mais on est obligé de faire ça parce que nos élus ont besoin qu'on leur explique de façon pédagogique, sans anathème, sans faire de pression. Nous, on explique juste qu'on voudrait changer la société. On voudrait changer le regard de notre société sur les homosexuels et en particulier sur les familles homoparentales, et en particulier sur les enfants élevés par des familles homoparentales. Et la seule façon de le faire, c'est de leur amener en fait les arguments, donc en termes d'égalité des droits, de respect d'autrui, de respect des différences, le vivre ensemble. Et ça, pas mal des élus l'entendent.
Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu as l'impression, effectivement, que cette façon d'agir produit ses effets? C'est-à-dire que... Parce qu'on peut imaginer que les positions assez radicales, assez fermées, on peut les faire évoluer, mais ça veut dire qu'il faut amener du matériel pour ça. Et déconstruire des idées reçues, justement, sur la famille. Comment vous réussissez à faire bouger les lignes?
Alors,
vous agissez comment, en fait?
Alors, si tu veux bien, je vais te donner juste un exemple. C'est l'exemple de la pluriparentalité. Nous, c'est un de nos dadas. Mm-hmm. Donc, un enfant, légalement, il a deux parents, papa et maman, biologiques. Mais les personnes qui vivent avec cet enfant, donc qui sont, en l'occurrence, l'époux du papa ou l'épouse de la maman ou le compagnon du papa ou la compagne de la maman, nous, enfin, pour l'enfant, c'est un parent à part entière, puisqu'il participe à son éducation. Mmh. Il emmène à l'école, il le cajole quand il a fait bobo, quand il s'est fait bobo, etc. Mmh. Bon, ce parent social, qu'on appelle parent social, ou si vous préférez le beau parent, en fait, il n'a aucune existence légale.
Oui.
Bon, nous, on explique aux élus que de donner des droits à ses parents sociaux, ça pourrait aussi rendre service aux couples hétérosexuels, aux familles hétérosexuelles, tout simplement parce que le beau parent, dans les familles recomposées, il pourrait aussi en bénéficier.
Et donc, avoir un statut similaire.
Donc vous voyez que là, un argument très très simple comme ça, d'étendre finalement la notion de la parentalité, des liens de filiation, ben, ça peut être entendable. Et effectivement, certains des candidats à la députation nous ont dit « mais oui, ça tombe sous le sens », parce que effectivement, ça intéresse aussi les familles hétérosexuelles.
Mmh. Et quand on veut être un simple militant à la PGL, on fait quoi?
Je crois que le premier acte de militantisme, c'est tout simplement d'adhérer à une association LGBT, tout simplement. Parce qu'en adhérant, on apporte évidemment un petit peu d'argent, hein. C'est pas ça qui fait en fait tourner une association, hein. C'est principalement le travail bénévole, hein, des adhérents qui fait tourner l'association, hein. Et donc, mais ça apporte aussi en fait une voix supplémentaire à une cause. Et donc, si je prends l'exemple de la PGL, nous, ça nous rapporte une voix pour voter dans ce qu'on appelle l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. En fait, c'est une association d'associations familiales, et la PGL y est adhérente, et a un nombre de voix correspondant à ses adhérents.
D'accord, donc plus tu as d'adhérents, et mieux c'est effectivement en termes de poids et d'impact dans ces réseaux-là.
Dans ces réseaux-là, effectivement. Mmh. Et quand on voit que l'UDAF est en fait une association qui représente les familles, aussi bien au niveau de la CAF qu'au niveau de la CPAM, donc la Sécurité sociale, mais aussi dans différentes structures qui vont décider de toutes les questions relatives à la famille. Donc vous voyez tout de suite le poids considérable que peut avoir l'UDAF. Hein. Et donc d'y avoir un poids même minime, d'avoir avoir un petit peu le droit au chapitre.
Depuis que tu es à la PGL, est-ce que tu as le sentiment de voir quand même que les stéréotypes familiaux, la famille et tout ce que ça peut représenter, est-ce que les lignes ont bougé? Est-ce que aujourd'hui, notamment au niveau des politiques, ils ont fait évoluer leur conception de ce que peut être la famille? Ou est-ce que c'est encore, pour la plupart, un père, une mère, des enfants, filles ou garçons? Ou est-ce que quand même, il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça aujourd'hui?
Alors, certainement oui. Je voudrais juste vous donner un exemple. Il y a quelques années, quand Mme Andrew était encore maire de Montpellier, la PGL a sollicité que Mme Andrew modifie les formulaires d'inscription des enfants à l'école, où à l'époque, c'était marqué père et mère. Mmh. Voilà. L'enfant, il pouvait être inscrit grâce à père et mère. On demandait l'identité du père et de la mère. Donc, on a fait remarquer à Mme Mandrou, maire de l'époque, qu'en fait, une famille, ça pouvait être autre chose que juste papa et ouais. maman. Et donc, à l'époque, elle a accepté de modifier ces fameux formulaires en mettant, si je ne me trompe pas, parent 1 et parent 2. Voilà. Mmh. On aurait aimé qu'il y ait plus de deux parents oui. sur ce oui. fameux formulaire. Mais on n'a pas réussi à faire bouger plus les lignes que ça. Mais en tout cas, c'était déjà une première évolution. C'était avant la loi mariage pour tous.
Hein, ah ouais, c'était déjà pas mal, oui, je me souviens de ça.
Voilà. Alors, à un autre niveau, donc au niveau maintenant législatif, lors de des discussions sur la loi mariage pour tous, donc il y a eu non seulement le mariage et l'adoption,
oui.
mais en plus, il y a eu deux autres mesures, dont une qui a donné la définition d'une famille. Mmh. Jusqu'à présent, en fait, la famille, c'était effectivement papa, maman. Mmh. Et donc, la nouvelle définition de la famille, c'était justement toutes les personnes qui vivent autour de l'enfant et qui l'éduquent. Et ça, cette disposition, cet article a été introduit par une députée qui s'appelait à l'époque Marie-Georges Buffet.
Mmh. Ah, donc c'est Marie-Georges Buffet qui a fait ça. Tout à fait.
Donc, il faut vraiment lui en rendre hommage. Et c'est grâce à cette définition que la PGL a pu avoir l'autorisation d'adhérer à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, et à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales.
Comment vous avez été reçu ?
Ça faisait depuis plusieurs années que la PGL a demandé d'adhérer à l'UNAF. Ouais. On lui a toujours fermé les portes avec des raisons fallacieuses, du genre « Ah, mais votre association, elle comporte aussi des adhérents qui ne sont pas encore parents ». Donc, puisque ce ne sont pas des parents, ils n'ont pas encore...
Ils ne sont pas légitimes.
Ils ne sont pas légitimes. Et donc, vous ne pouvez pas adhérer. Il se trouve que sur l'UDAF de l'Hérault, on a été extrêmement bien accueillis par son président, que je voudrais citer ici, si vous me permettez.
Oui, oui, bien sûr.
Son nom, c'est Claude Rico, président de l'UDAF. Donc, il nous a accueillis vraiment à bras ouverts. Et il se trouve que maintenant qu'on participe aux réunions, on a vraiment brisé la glace avec différentes associations familiales.
Même les plus réactionnaires ?
Même les plus réactionnaires qui maintenant acceptent de nous serrer la main.
Oui.
et donc la prochaine étape pour nous, c'est de les inviter à nos réunions conviviales. Donc par exemple, en décembre prochain, on aura un arbre de Noël. Et donc ça sera l'occasion de les rencontrer et qu'ils voient que nos familles sont comme les autres.
Mmh. Ok. On est presque à la fin de l'émission. Ouais. Ghislain m'a posé la dernière question. par contre, effectivement, on va te retrouver la semaine prochaine. Je pense qu'on reviendra. Je pense que c'est intéressant parce que l'homoparentalité, c'est très large et il y a plein d'options possibles. Ça sera, je pense, intéressant de revenir sous ces différentes formes, si tu le veux bien, Dohan.
Avec grand plaisir.
Alors dis-moi, Dohan, quel est ton état d'esprit maintenant ?
Je suis beaucoup plus à l'aise qu'il y a une semaine, effectivement. Tout simplement parce que, bon, voilà, vous avez bien compris, c'est un peu ma passion, en fait. Hein, c'est un peu mon alors, je dirais pas mon diesel, parce que là, c'est pas développement durable
non,
en ce moment.
Non. C'est pas très écolo.
C'est mon cheval de bataille.
Mon cheval de bataille, exactement. C'est ça qui me fait bouger en ce moment.
Ok, ça marche. Bah, on te retrouve la semaine prochaine, Dohan.
Avec grand plaisir.